Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Sept moyens de baisser la pression pour accroître votre bonheur en couple, ça vous dit ? Oui, vivre un couple heureux qui vit plus cool et qui profite davantage de ses moments de bonheur, bah évidemment, ça vous dit. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et on continue ensemble avec ces sept moyens de baisser la pression. Je voudrais d'abord vous faire une petite confession en vous disant que ces sept moyens de baisser la pression sont des moyens que j'ai mis en œuvre parce que vous ne me connaissez pas, mais je suis un gars exigeant, très exigeant. Et j'ai dû apprendre, et je continue à apprendre, à baisser la pression, à baisser les exigences pour profiter de la qualité du moment présent, profiter de l'instant, du plaisir, etc. Parce que la pression peut monter d'un coup dans une vie à deux. Et en général, c'est pas le fruit du hasard. Si la pression est présente, c'est qu'elle a pris racine quelque part. Généralement, elle l'a fait dans des détails anodins du quotidien. Et qui plus est, quand on est dans un profil comme le mien, assez exigeant, où on veut les choses vraiment géniales, etc. J'en profite pour vous le dire, ma femme n'est pas là, même si elle va sans doute écouter le podcast, mais elle va opiner du bonnet en disant « Oui, je reconnais là mon mari ». Nous pouvons avoir tendance à minimiser certaines paroles ou certains silences sans nous rendre compte qu'ils comptent beaucoup pour les autres. Ou pour l'autre particulièrement, pour notre conjoint. Les membres d'un couple jouent un jeu de lecture et puis d'interprétation de l'autre. Et c'est malheureusement souvent là qu'ils le font à leur détriment, à leur propre détriment. Et c'est vraiment mieux pour cela de laisser la place à l'échange plutôt que de penser que l'on sait ce que veut l'autre ou bien de penser ce que l'on sait, ce que pense l'autre. Pensez très fort, je sais, mais je préfère me taire pour te laisser la place de me dire ce que tu penses. On pourrait le dire comme ça, je ne veux pas le savoir car je veux t'entendre me le dire. Cet enracinement participe à assainir bon nombre de recoins de la vie à deux. À partir de là, nous pouvons aller plus loin en vivant à loisir des occasions de passer entre les gouttes de tensions inutiles. Si j'emploie le mot inutile, c'est que certaines tensions sont utiles, alors que d'autres ne le sont pas du tout. Je mettrai donc un terme au témoignage, même si je viendrai y parsemer quelques commentaires de ce que je partage avec vous sur ces sept moyens de baisser la pression, avec peut-être quelques exemples personnel de ce que j'ai pu soit dénoncer, soit apprendre de ma vie à deux et en relation évidemment avec tout ce que j'ai appris dans le cadre de mes formations, de mes lectures. Premier moyen de baisser la pression pour accroître votre bonheur en couple est de ne pas attendre de votre conjoint qu'il soit devin. Ça paraît assez simple comme ça, mais véritablement, c'est le jeu, le premier élément que je vous propose. Et effectivement, j'utilise le terme « jeu » parce que j'ai envie que vous le jouiez comme un, que vous le viviez, que vous l'accueilliez comme un jeu. Bien des choses d'ailleurs de la vie du couple pourraient être source d'apaisement, moins de pression si on les prenait comme un jeu. J'en parlais cette semaine avec ma femme en parlant de sexualité. Si on prend ne serait-ce que le domaine de la sexualité en disant « bon, on va s'amuser ». On n'est pas forcément sérieux avec un palmarès, avec une qualité de rendement, de rendu. Eh bien, cette idée-là permet de baisser la pression. Ne pas attendre de votre conjoint qu'il soit un devin permet de baisser la pression. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, ça signifie que je vais dire à mon conjoint ce que je pense, ce que je veux dire, ce que j'attends. Je m'arrêterai tout à l'heure sur la réponse à ses propres besoins. Mais d'abord, cette démarche. Je vais dire à mon conjoint, et peut-être même je vais me dire. Alors j'ai déjà dit que la différence entre dire et se dire est au niveau... Je vais l'expliquer rapidement. Quand je dis quelque chose, je transmets une information. Merci d'avoir préparé le repas pour ce soir. C'est une information du dire, de l'ordre du dire. Si je le prends maintenant sous l'angle de me dire à mon conjoint, eh bien je vais aller y intégrer davantage de je. Tout à l'heure j'ai dit... Je te remercie d'avoir préparé ce plat. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'émotion dans cette démarche-là. Il n'y a pas de déshabillement. Peut-être quelque part, un voisin, un copain ou une copine pourrait venir et dire « Je vous remercie d'avoir préparé ce plat pour ce soir. » Vous voyez ce que je veux dire ? On est sur une information. L'information, la transmission d'un remerciement. Si je veux être dans une démarche qui consiste à me dire, je vais y mettre du « je », à l'épuiser dans mes ressources, besoins, émotions, ressentis, pour pouvoir formuler le même sujet, mais vous allez voir qu'il serait empreint d'une toute autre coloration, parce que ça pourrait donner « J'apprécie beaucoup que tu aies préparé ce plat pour ce soir, et je me sens aimé en mangeant ce repas. » Vous entendez, même si j'enlève la deuxième partie, je me sens aimé quand. C'est sous-entendu, vous voyez ce que je veux dire. Je suis impliqué en tant que personne, comme témoin d'expérience de ce que je viens de vivre. Je ne suis pas seulement en train de transmettre une information. Dans cette démarche qui consiste à ne pas attendre que mon conjoint soit mon devin, ça va être pareil quand je vais lui demander un service. Et je vais donc sortir du schéma qui consiste à penser que c'est quand même évident que, en tant que conjoint, tu devrais savoir que. Ou bien comme tu m'aimes, tu devrais. Vous voyez, il y a une empreinte qui donne l'impression à l'autre qu'il devrait savoir, qu'il devrait comprendre. Il devrait savoir que me respecter, c'est ne pas dire ça et c'est faire ça. Non. Dans les 7 moyens pour baisser la pression pour accroître le bonheur, je vais choisir de dire à mon conjoint ce que signifie pour moi me sentir respecté. Tu sais, mon amour, je me sens respecté quand ceci et quand cela. Je me sens non respecté quand ceci et quand cela, et je ressens ceci et cela. Et là, je vais aller donner de me dire, et pas seulement une information. Ou pour moi, c'est vraiment important, quand on respecte quelqu'un, de veiller à ce que ceci et à ce que cela, etc. Encore une fois, ça veut peut-être dire qu'on va pour l'instant s'arrêter là. Ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose à notre conjoint qu'il devra se plier en quatre pour rentrer dans nos volontés. Mais au moins de me dire « mon conjoint n'est pas devin, je vais lui transmettre les informations et je vais aussi me transmettre en me disant à mon conjoint pour qu'il découvre qui je suis, qu'il découvre ce que je vis, comment je vis les choses, etc. » C'est un petit peu difficile pour certains de se dire « tiens, mon conjoint est essentiellement dans le dire, il me dit des choses, mais il ne se dit pas dans ce qu'il me dit. » Il y a des méthodes qui existent pour accompagner le conjoint vers l'expérience de se dire. Donc si vous en avez besoin, vous savez où me trouver. Je peux vous accompagner pendant quelques séances, ne serait-ce que pour que vous arriviez à mieux entendre votre conjoint et à mieux donner à votre conjoint le signal que vous êtes là, tendu pour l'entendre, ou peut-être d'accepter qu'il ne se dise pas, si vous préférez, respecter sa liberté et faire en sorte qu'il accepte, enfin, que plutôt vous acceptiez qu'il ne se dise pas en vivant en connaissance de cause. Voilà. Premier moyen de baisser la pression, c'est de ne pas attendre de votre conjoint qu'il soit devin. Deuxième moyen de baisser la pression pour accroître votre bonheur, et de répondre à vos propres besoins avant d'attendre que l'autre le fasse. Je vais peut-être moins m'arrêter là-dessus que sur les autres sujets, parce que j'ai déjà évoqué ça lors des missions précédentes. Dans un couple, on est donc deux individus. Chacun des individus doit, j'utilise le verbe devoir, hein, ce qui est très rare, mais doit pouvoir répondre à ses propres besoins sans attendre que quelqu'un d'autre réponde à ses besoins. Il est grand, à partir du moment où il est grand, il est adulte, il sait entendre ses besoins. S'il ne le sait pas, eh bien, qu'il apprenne à le faire, encouragez-le à le faire. Il y a des outils qui existent pour cela et je peux aussi accompagner là pour aider à identifier ses besoins, savoir entendre ses propres besoins. Et puis à partir du moment où on a pu identifier ses besoins, on va chercher à y répondre soi-même. Une fois qu'on a appris à y répondre soi-même, on est dans une démarche dans laquelle on sait comment construire son propre bonheur. Notre bonheur ne dépend pas de ce que notre conjoint va nous apporter. Je sais que ce n'est vraiment pas tout à fait dans le sens de ce que vous avez l'habitude d'entendre en disant « si je suis heureux, c'est grâce à toi ». Même parfois, la culpabilité du conjoint de se dire « en fait, si tu n'es pas heureux, c'est à cause de moi, parce que je n'arrive pas à te rendre heureux ». Vous pouvez corriger ça dans votre tête, madame ou monsieur. C'est à votre conjoint de se prendre en main pour créer son bonheur, construire son bonheur. Vous pouvez participer comme co-acteur de son bonheur, dans la mesure où il ne vous prend pas comme un devin et il vous laisse des paquets de dire dans lesquels il vous donne des informations et puis des paquets dans lesquels il se livre dans ce dire pour que vous sachiez mieux le connaître et éventuellement participer à son bonheur. Je dis éventuellement parce que dans le sens où je veux que vous ne vous sentiez pas obligé d'y participer, mais volontaire pour participer au bonheur de votre conjoint. Donc, répondre à vos propres besoins avant d'attendre que l'autre le fasse est primordial. Vous répondez à vos besoins. Et certains conjoints me disent, mais c'est quel pourcentage? Alors, je ne sais pas, moi, je ne peux pas faire de balance. En tout cas, ce n'est pas évident d'y répondre. Alors, juste de manière imagée, je donnerais un 80-20. Répondez à 80% de vos propres besoins et invitez votre conjoint à participer aux 20 restants. Si ça peut vous aider. Cela dit, c'est difficile à évaluer, mais c'est juste pour vous donner une image. En perspective de vous dire, tiens, en fait, c'est pas 50-50. Je réponds à 50% de mes besoins, mon conjoint répond à 50%. Je fais exprès de donner un 80-20 pour créer des équilibres et voir à quel point votre vie individuelle dans votre couple est prépondérante dans votre bonheur personnel comme dans votre bonheur conjugal. Troisième moyen de baisser la pression pour accroître votre bonheur en couple, c'est de suspendre le bras de fer. On vit beaucoup dans le couple avec cette tension qui est dans « j'ai raison ». Il a tort. On aime bien être dans ce binaire. On ne peut pas avoir raison tous les deux ou avoir tort tous les deux. Pourtant, je vous avoue, je vous assure que vous pouvez avoir raison tous les deux et vous pouvez avoir tort tous les deux. Et en plus, vous pouvez avoir raison tous les deux avec 2, 3, 5 idées par personne. Et vous pouvez avoir tort tous les deux avec autant d'idées par personne. Mais à vrai dire, quel intérêt? Pour qui est l'intérêt d'avoir raison ou d'avoir tort? Ça, c'est une question à laquelle vous répondez rarement quand vous êtes dans ce jeu de « oui, il dit ça, mais il a tort, c'est moi qui ai raison » ou bien « ouais, j'ai toujours tort » ou bien « c'est moi qui ai toujours raison la plupart du temps » quand je constate, me disait un homme, quand je vois nos conflits et nos discussions, la plupart du temps, c'est moi qui ai raison. Je dis « oui, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça ?» Ça veut dire que vous demandez à votre femme de se taire et c'est vous qui décidez de tout, c'est ça? Comme à l'armée? Ah non, alors comment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel intérêt d'avoir raison? Raison pour quoi? Raison pour qui? Le jeu qui consiste à être dans ce bras de fer en permanence n'est pas un jeu drôle. Dans le premier moyen, je vous disais, ben, jouez à cela. Mais là, arrêtez de jouer à ce jeu. Vraiment, dans l'intérêt respectif et l'intérêt personnel, le mieux, c'est que vous voyez le bénéfice que vous pouvez tirer deux idées de tout le monde. Je trouve que, comme c'est le cas dans la politique, il y en a ras-le-bol de voir ces approches partisanes où, parce que c'est l'opposition qui présente le sujet, bah c'est forcément mauvais, même s'il y a de bonnes idées. Puis le jour où on est élu, nous, on récupère les idées de l'opposition, on change deux, trois mots pour donner l'impression qu'on n'a pas fait de récupération, puis on les ressort, comme Madame la femme de l'ancien président des États-Unis qui a récupéré le discours de sa prédécessrice. Ce mot n'existe pas, mais j'ai envie de le féminiser un petit peu. Alors, elle est du parti adverse, mais elle le récupère parce qu'il était quand même bien, ce discours-là. Manque de bol, ça a été repéré dans les médias et ça a été tartiné dans les médias parce que Madame Trump avait récupéré le discours quasiment mot pour mot de Michelle Obama. Bah. Tort. Raison, cessez de jouer à ce jeu-là. Profitez des idées des autres. Et peut-être même, comme je le fais faire en exercice à certains couples, quand vous avez une décision à trancher, mettez respectivement plusieurs idées sur des petits papiers. Et puis, travailler ensemble sur l'ensemble de ces idées, rajouter des idées avant d'avoir l'impression de devoir jouer à du binaire. C'est soit toi, soit moi. En ayant l'impression que finalement, il n'y a que deux possibilités face à cette difficulté, alors qu'il peut y en avoir 5, 6, 8, 9. J'ai fait ça dans mon bureau il n'y a pas longtemps avec un couple qui peut-être se reconnaîtra en écoutant cette émission. Troisième moyen de baisser la pression pour accroître votre bonheur en couple est d'oublier d'attendre de l'autre qu'il change. J'ai fait exprès d'utiliser le verbe oublier parce que c'est une tendance, on se la rafraîchit, j'attends qu'il change, j'espère qu'il va changer. Quelqu'un me disait il n'y a pas très longtemps, mieux vaut changer de mari ou de conjoint que de vouloir faire changer le sien. Alors, je ne suis pas en train de vous pousser en vous disant, divorcez, allez en chercher un autre, ou séparez-vous, dépaxez-vous, allez en chercher un autre. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est plus facile. Mieux vaut travailler en se disant, je vais choisir quelqu'un qui a des valeurs vraiment fondamentales, importantes, communes, avec les miennes, une façon de voir la vie qui est convergente, pas la même, mais convergente, ou bien je vais travailler avec mon conjoint pour avoir cette manière de voir la vie qui soit convergente, encore une fois, pas identique, mais convergente, parce qu'on a besoin de cette différenciation pour être complémentaire. On n'est pas complémentaire si on est les mêmes. Vous prenez une fiche mâle et une fiche mâle, ça passe pas, hein. Il faut une fiche mâle et une fiche femelle. D'accord ? Donc, à partir du moment où on est complémentaire, on s'entend mieux. Évidemment, on aura des conflits parce qu'on est différent. Mais l'avantage, c'est qu'on peut s'épouser au sens étymologique, prendre la forme de l'autre parce qu'on est différent. Donc, oublier d'attendre de l'autre qu'il change fait partie du menu quotidien de dire « il est comme ça ». J'avais interrogé Lily quand on avait fait le résumé du livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman, qui est présent d'ailleurs en résumé vidéo sur le blog Couple Heureux. Vous pouvez aller écouter ou regarder cette interview vidéo. Et vraiment, une des grandes leçons qu'elle avait tirées de la lecture de ce livre, c'est de se dire bah, « mon compagnon est comme ça, il est comme ça ». Et il est comme ça depuis 25 ans, depuis 28 ans, depuis 30 ans. C'est pas moi qui vais le changer en lui donnant une demande, même si je la répète une fois par mois pendant 3 ans. Il est comme ça, mieux vaut l'accepter comme ça. Parce que ça va permettre de baisser la pression et de me dire que comme il est comme ça, eh bien je vais m'adapter. Lui fera le même jeu. Comme vous êtes comme ça, il va s'adapter à vous. Et dans ce double jeu, eh bien vous vivez le couple qui est un double jeu. Et là, vraiment, dans l'enrichissement, de l'acceptation de l'autre bienveillante. En fait, si l'amour ne sert pas à accepter l'autre comme il est, je ne sais pas à quoi sert l'amour. Pip, 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 votre correspondant. Vous comprenez ce que je veux dire. L'amour sert vraiment à ça. Elle ne sert pas à aimer l'autre dans ce qu'on trouve génial et qui est vraiment en accord avec qui l'on est et ce qu'on attendait. Elle sert à aimer l'autre comme il est. Nous le faisons avec nos enfants, faisons-le avec notre conjoint. Je dis ça, c'est pas évident, hein, parce que, encore une fois, j'ai divorcé, je sais pourquoi je l'ai fait, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui, tout le bagage et l'équipement que j'ai là au présent et que je partage avec vous. Donc je pèse mes mots, je suis conscient de la gravité de ce que je suis en train de dire et en quoi je m'implique. Je suis pas en train de vous parler en tant que modèle en vous disant « faites ce que Pascal dit parce que vraiment il est formidable ce gars, s'il a fait un parcours sans faute, il est exceptionnel ». Je suis en train de vous donner le résultat d'un travail de recherche, de formation, d'acquisition que je veux que vous ayez pour ne pas vivre les mêmes douleurs que moi, entre autres. Et pour vivre des bonheurs qui seront les vôtres et qui vraiment vous donneront de vivre sur une orbite qui sera magnifique et sur laquelle vous pourrez vous dire « Waouh, c'est génial, j'en suis là, continuons comme ça ». Cinquième moyen de baisser la pression pour accroître votre bonheur en couple, eh bien, c'est de vivre davantage au présent sans ramener le passé. Illustration assez simple, c'est oui, tu me fais ça, et tu m'as déjà fait ça la dernière fois, et puis l'année dernière, tu m'as dit ça, ou bien, tu me dis ça, mais toi, il y a 3 jours, voilà, ça c'est une manière de ramener le passé. Une manière de ramener le passé aussi, c'est de ne pas évoquer certaines situations qui ont été dérangeantes, éventuellement blessantes, humiliantes, en disant « bon, on passe dessus ». Et généralement, la personne ajoute « c'est pas grave ». Voilà, on passe dessus parce que c'est pas grave. Et puis on laisse comme ça « non, mais c'est pas grave, on va pas en parler parce que ça va le fâcher ou ça va le vexer ou ça va casser l'ambiance ». Et puis un jour, il y en a trop, c'est plus possible. Alors, on va vider son sac. En passage, on va aussi participer à vider son conjoint. On va vider son sac en ramenant peut-être parfois même davantage d'éléments du passé que de l'élément présent. Mieux vaut éviter de vivre davantage dans le passé que dans le présent. Donc vivez davantage au présent sans ramener le passé. Si vous voulez ramener du passé, ramenez du beau passé, parce que c'est sympa, c'est comme quand on feuillette l'album photo, on regarde des choses géniales du passé. Mais si c'est pour aller ramener, permettez-moi l'expression, des cacas du passé, des fermentations du passé, éventuellement des escarres du passé, mieux vaut éviter, sauf si ça nous fait sourire ensemble. Mais si ça ne fait rire ou sourire que l'un des deux, passez votre chemin. Sixième moyen de baisser la pression pour accroître votre bonheur en couple, c'est de demander pardon et de reconnaître ses erreurs. Oh, demander pardon, reconnaître ses erreurs. Pas évident, mais essentiel. La dernière fois que vous avez demandé pardon à votre conjoint, ça remonte à quand ? Est-ce que vous pouvez vous poser la date ? Pardon, je ne parle pas de simplement demander pardon, mais là, à un moment où votre conjoint, vous avez eu conscience qu'il a eu mal, il vous a dit, ou bien vous avez vu. Parfois, on fait le dos rond, on dit « ouais, je vais balancer un petit pic, mais bon, ça va passer, demain ça ira mieux ». Ouais, pourquoi pas ? Mais ça peut faire partie de ces éléments qui feront que parfois le passé va vous revenir en pleine figure à un moment où vous ne vous y attendez pas. Mieux vaut, quand vous avez vu votre conjoint blessé, gêné, déçu, dire « Écoute, j'ai l'impression que tu es blessé, que je, dans ce que je t'ai dit, tu te sens blessé. C'est bien ça ?» S'il vous dit oui, cherchez à comprendre pourquoi. Quand vous avez compris pourquoi, entendu, même si vous n'avez pas compris, mais quand vous avez entendu pourquoi, et que lui se sent blessé, que vous soyez d'accord ou non, on n'est pas dans le bras de fer, que vous soyez d'accord ou non, que vous ayez l'impression que c'est exagéré, que c'est injuste, que c'est égal. Il ou elle a été blessé, je te demande pardon. Je suis désolé que tu te sois senti blessé. Oui, je suis bien d'accord. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir fait une erreur, même si vous êtes convaincu d'avoir été dans le juste, votre conjoint s'est senti blessé, vous pouvez lui demander pardon. Vous pouvez aller présenter vos excuses. C'est valable pour votre conjoint, c'est valable pour vos enfants, c'est valable pour votre collègue, pour vos voisins et pour toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Mais d'abord, on est sur le conjoint, on est sur couple heureux. Donc c'est une des clés pour vivre heureux à deux qui est là dans ces 7 moyens de baisser la pression pour accroître votre bonheur en couple. 7e moyen de baisser la pression pour accroître votre bonheur en couple, c'est de refuser le jeu de la culpabilisation de l'autre. C'est un petit peu en relation avec un des éléments que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est de laisser croire à l'autre qu'en fait, c'est à cause de une chose qu'il a faite ou qu'il a dite que vous êtes dans un état particulier. Généralement négatif. Parce que ça ne pose pas de problème quand vous donnez l'impression à l'autre que vous êtes heureux, euphorique, joyeux et comblé grâce à lui. Même si c'est faux. Mais je ne m'arrêterai pas sur le sujet maintenant. Mais donnez l'impression à votre conjoint que vous êtes malheureux, triste, frustré et déçu à cause de lui est faux. Je ne m'arrêterai pas sur ce sujet maintenant non plus pour le creuser. Mais vous comprenez à quel point vous êtes en train, quelque part, d'enfermer votre conjoint dans quelque chose de lourd, de grave. En fait, c'est à cause de toi que je suis triste. C'est à cause de ce que tu m'as dit que je suis triste. C'est à cause de ce que tu as fait que je suis en colère. Et puis c'est parce que tu n'as pas fait ça et que tu n'as pas fait ça que je suis frustré. Ça demande de prendre du temps pour apprendre à se connaître. Je rejoins ce point, je relis plutôt ce point à celui qui consiste à répondre à ses propres besoins. Répondez à près de 80% de vos besoins et puis ensuite laissez la place à 20% du reste de vos besoins pour que votre conjoint y participe dans la mesure où il est désireux de le faire. Parce que c'est vraiment une preuve de maturité que d'être capable de se rendre compte de la nécessité de refuser le jeu de la culpabilisation de l'autre plutôt que de jouer le jeu de la responsabilisation de soi-même. Je préfère qu'on joue ce jeu de la responsabilisation de soi-même. Je suis responsable de ce que je ressens, je suis responsable de ce que je vis, je suis responsable de ce que je pense et de ma manière de voir les choses. L'autre n'y est pour rien, c'est moi qui suis responsable. Je ne suis pas en train de vous dire de vous rendre coupable, mais d'être responsable, puisque la réalité rationnelle est que vous êtes responsable de vous-même et personne d'autre ne l'est. C'est donc le 7e moyen. Je vous rappelle que vous n'êtes pas seul. N'attendez pas que votre couple batte de l'aile pour aller demander de l'aide, pour consulter. Il est vivement profitable de consulter pour un passage à vide ou un conflit du moment. C'est un des moyens d'éviter d'avoir à écoper quand le bateau est plein. C'est beaucoup plus dur parce que l'eau va continuer à rentrer beaucoup plus vite que vous ne serez en mesure de l'en enlever. Même dans un passage ponctuel, et je pense que je prendrai le temps d'interviewer un thérapeute conjugal sur cette question, quand est-ce qu'il est préférable de consulter, quels sont les signes, à quel moment aller chercher de l'aide à l'extérieur, de manière à vous donner là encore une des clés pour être heureux à deux. Dans la retranscription résumée de cette émission sur le blog Couple Heureux, je vous ai mis un certain nombre de ressources pour vous aider à aller plus loin sur le sujet qu'on est en train d'évoquer ensemble. 14 remarques à ne jamais faire à votre partenaire, des éléments pour mieux communiquer, pourquoi je n'en peux plus d'attendre que mon conjoint partage mon désir, ou les mépris, le mépris, le sentiment qui détruit le couple, 4 erreurs de communication qui sont fatales. Et voilà, je vous ai mis plusieurs éléments, et puis aussi les 3 moyens efficaces pour améliorer la communication de votre couple qui sont présents sur le blog Couple Heureux. Et enfin, avant de vous laisser, eh bien, il y a le e-book qui est présent sur la page d'accueil carrément du blog Couple Heureux qui s'intitule Allez-vous supporter votre conjoint toute votre vie? Avec ce e-book et les éléments que je vous ai donnés là, vous avez de la matière pour approfondir ce sujet d'aujourd'hui. Raisonner, vous retrouver, vous rapprocher, échanger, vous ouvrir, dire et vous dire, entendre et vraiment accueillir l'autre pour continuer à créer votre bonheur. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme « Partager » et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.